Exactement, midi 2 minutes. Vous êtes en direct de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Pour nous rejoindre, vous le savez, 418-971-1021. N'hésitez pas à nous texter. On adore vous lire. On adore réagir avec vous. Vous êtes toujours très présents. Le midi est très dynamique. Également, blvd.fm, c'est la web radio. C'est une façon de nous écouter additionnelle. Et c'est les meilleurs moments qui vont se retrouver après l'émission. Notamment le caucus d'Antonine Iaccarini qui se retrouve aussi sur notre page YouTube. Quand même, petit 2 pour 1 pour l'ami Anto qui nous fait toujours des excellents caucus. BLVD 102.1 App Store, Google Play Store. Vous allez là-dessus, l'application. Vous pouvez nous suivre partout où vous allez. Et twitch.tv/BLVD/FM. Venez nous voir. Venez voir notre belle face en studio. C'est le retour de Pascal CV. Après ces deux semaines passées au pays des kangourous, Madame Savé, comment allez-vous?
Salut, ça va super bien. J'espère cool. que vous aussi.
Bien sûr.
J'ai vu que vous n'avez pas chômé durant mon absence.
On a eu plein de plaisir avec plein de politiciens, de Christine Fréchette à Joël Lightbaum.
Merci beaucoup aussi à Mathias. Hein, j'aime ça. Ah,
vraiment.
La part que les collègues font là, quand tu t'absentes. Mm-hmm. Moi, je me sens de très bonnes mains quand Mathias est là.
Et pour ceux qui s'ennuient, là, Mathias, bien, il sera avec nous aux alentours de 13h25 parce qu'on va revenir avec Alex Laramé sur cette défaite crève-cœur du Canada hier en hockey. 2-1 en prolongation contre les États-Unis, malgré le fait qu'on a dominé le match. Connor Hellebuck s'est levé dans un grand moment pour les États-Unis. C'est le gardien de but. Et Mathias va également revenir d'un point de presse de la Ville de Québec concernant l'optimisation des patinoires extérieures pour assurer leur pérennité. Une autre façon de dire qu'on ferme des patinoires extérieures. Mais c'est beau, hein, Antonine? Je vais optimiser les patinoires extérieures pour assurer leur pérennité.
On ferme pas. C'est de l'optimisation,
Jean-François. C'est de l'optimisation. Comme ça, je vais pouvoir en garder plus ouvertes.
Ben, écoute, c'est un bon objectif d'optimiser les choses. Hein? On peut pas être contre ça.
Ah, de la bouillie pour les chats, de la façon qu'on le dit, si tu veux mon opinion. Mais avant de commencer, l'excellent caucus Iaccarini, Pascal, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité aujourd'hui, là, les trois manchettes principales pour nos auditeurs?
Pas une journée sans qu'on nomme Donald Trump, mais cette fois-ci, c'est qu'on compare l'un de nos politiciens à Donald Trump. Ben, c'est pas n'importe qui le fait, c'est sûr, ce sont des syndicats. Mais on traite Bernard Drainville de futur Trump du Québec pour la fin de la permanence à vie des fonctionnaires. Donc, on voulait un peu contester ce qui se passait, puis surtout dire qu'il était intransigeant. Donc, le président Drainville, si c'était un président, un peu comme M. Trump, met de la pression sur les fonctionnaires et sur les personnes dans l'appareil public pour qu'ils changent les décisions s'ils prennent des décisions comme lui le veut. C'est ce qu'a dénoncé le président du SFPQ, Christian Daigle. C'était dans une entrevue avec le bureau parlementaire de Québécois. Sinon, un événement anti-avortement qui est annulé. C'est le début du procès de la ministre du Tourisme, donc le procès intenté au civil contre la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Et ça s'est poursuivi pour avoir annulé un rassemblement anti-avortement en 2023. Et ça s'est ouvert au Palais de justice de Québec aujourd'hui, donc il y a quelques minutes. Si je peux terminer avec une autre nouvelle cette fois-ci, c'est par rapport au Mexique, bien sûr. Les violences après la mort d'un chef de cartel, ça a pas mal pris notre fin de semaine, notre dimanche hier. L'armée qui déploie 2500 soldats dans l'ouest du Mexique pour s'assurer d'avoir normalement un petit peu plus de calme au niveau des rues du Mexique.
Dans la première heure du show, justement, on va parler avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, parce que l'armée est impliquée au Mexique. Donc, on va parler avec lui. Pascal a parlé avec un résident qui vit au Mexique, donc qui a vu et entendu de la violence hier. Et également, on va parler avec Gabriel Giguère de ces tarifs qui ont été annulés par la Cour suprême. Puis de la réaction de Donald Trump, 10 %? Mais non, c'est pas assez. Je me lève le lendemain matin. Can't, oui. Un 15 % par la tête.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Can't weigh un 15 % par la tête de Donald Trump. Et là, Bernard Drainville est rendu Donald.
Même affaire.
Pareil. C'est sûr, Bernard se lève à chaque jour et dit « Comment je pourrais faire pour anéantir le Québec? »
Est-ce que c'est ce qui s'appelle la démagogie, selon toi, Anthony?
Je sais pas. Je vais poser la question, me semble y répondre. Écoute, je conçois que M. Drainville mène une campagne en ce moment qui est un petit peu plus populiste.
Oui.
Mais de là à dire qu'on a Donald Trump, tu sais, à un moment donné, à force d'exagérer,
c'est
la fois où c'est vraiment grave puis que c'est vraiment rendu que tu peux comparer à Donald Trump et il te reste plus rien. C'est comme
exactement.
Le petit gars qui criait au loup. Maintenant, on n'écoute plus. Mais effectivement, M. Drainville a décidé de brasser la cage en promettant la fin des permanences dans la fonction publique. Il faut dire aussi que c'est plus la réalité est un petit peu plus nuancée que ça.
Là, la fin des permanences, c'est pour dire des gens qui vont l'avoir échappé, comme dans le dossier de sa clique,
voilà.
Au lieu d'y replacer à l'Office de protection du consommateur, moi, ils mettent dehors.
C'est ça.
T'sais, c'est pas je prends tous les employés du gouvernement qui ont une permanence puis j'enlève ça. Là.
Non, mais c'est vrai
ceux
que...
qui font pas à job.
Ouais, mais c'est vrai que ça choque les gens de savoir que, mettons, que tu l'as vraiment échappé là, et que tu
n'as
pas atteint les objectifs de ton emploi. Au lieu de te faire dire, là, voici la porte,
c'est ça.
Tu te fais mettre sur une autre tablette dorée avec les mêmes conditions de travail.
Exactement.
Ça frappe l'imaginaire. Et effectivement, je ne suis pas sûre que c'est à l'avantage de la performance de la fonction publique. Par contre, si tu vas complètement de l'autre bord et que tu dis, finis les permanences, puis que tu commences à baisser les conditions de travail et les avantages de travailler dans la fonction publique, ce qui risque d'arriver, c'est que la fonction publique devient moins compétitive. Parce qu'on n'attirera pas nécessairement des talents en ayant des mauvaises conditions de travail. Mais bref, M. Drainville le sait très bien. Il a décidé d'avoir une campagne qui est très axée sur l'efficacité, un peu plus l'aspect adéquiste de la CAQ. Donc, c'est dans la même lignée. C'est très cohérent de la part de M. Drainville. Puis c'est dans l'air du temps, parce qu'avec ce qui s'est passé avec sa clique, on a une impression d'impunité. Puis tu te donnais un exemple, effectivement, quand le PDG de la
CAQ... Denis Marsolais, là.
Qui s'est retrouvé, puis qui a fait plusieurs jobs de grand mandarin de l'État, dans lesquels ça n'a pas tout été catastrophique non plus, il faut le dire. Mais ce n'était pas la bonne personne, à mon avis, pour mener un virage numérique. Et il n'y avait personne au CA non plus qui était compétent pour faire un virage numérique. Est-ce que ça voudrait dire que M. Marsolais, par exemple, ne serait pas utile nulle part ailleurs dans l'appareil gouvernemental? J'en doute. Moi, je trouve que le problème, c'est de mettre les mauvaises personnes au mauvais endroit.
Tu as tellement raison.
Enfin,
tu as raison à 100%. Belle annonce, cependant, de Bernard Drainville, pour continuer avec lui, par rapport aux agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un communiqué de presse qui est rentré où on abolirait la taxe carbone pour eux et on remettrait cet argent-là directement dans un compte en banque disponible pour eux, directement dans le compte en banque des agriculteurs. Ça, les agriculteurs ont besoin d'une bouffée d'air frais.
Oui, c'est pas facile d'être agriculteur en 2026, puis surtout avec tout ce qui s'en vient avec les négociations dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Ça va être beaucoup d'anxiété aussi pour le secteur agricole. Si on veut se positionner comme plus adéquiste, même se rapprocher un peu des positions du Parti conservateur du Québec, la bourse du carbone, c'est un petit peu un élément qui flotte dans les airs en ce moment. Parce que, le Carney a éliminé la taxe carbone dans le reste du Canada. Nous, on ne faisait pas partie de la taxe carbone, mais le Québec fait partie de la bourse du carbone. Et ça revient un peu au même, c'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas la taxe directement quand vous allez à la pompe, mais on vous charge à quelque part la participation
exactement.
À la bourse du carbone. Et sortir de la bourse du carbone, c'est pas si simple non plus.
Non, parce que là, c'est une affiliation avec plein d'autres organisations et États, notamment l'État de la Californie.
Puis ça crée une certaine instabilité au niveau des marchés parce qu'il y a tout un marché entourant, en fait, financier, entourant les crédits carbone. Je vous passe les détails de ça, mais ça pour dire que je trouve que de faire des compensations, c'est plus intelligent que de dire « j'annonce que je sors de la bourse du carbone », ce qui serait sûrement très populaire sur le coup, mais qui, je ne suis pas sûre, serait la décision la plus judicieuse à faire. Donc, bref, Bernard Drainville continue de proposer. Et de l'autre côté, on a Christine Fréchette.
Oui.
La plupart des gens pensent qu'elle est en avance dans la course. C'est un peu difficile de dire avec vraiment de la certitude qu'elle est en avance dans la course, parce que les indices qu'on a, c'est le nombre d'appuis des députés. Et les sondages généraux.
Oui, c'est ça, c'est pas les sondages militants.
Exactement, mais il semble avoir une avance importante. Et elle fait une campagne beaucoup plus pépère, on va dire ça comme ça.
Exactement, on l'écoute justement à son rassemblement de samedi où elle dit avoir démontré l'union de la force avec 450 personnes qui étaient là et les nombreux appuis.
Les défis, ils sont complexes. On ne peut pas les régler avec des solutions simplistes. Et comme femme d'État, je veux être reconnue pour mes résultats plutôt que mes coups d'éclat ou mes sautes d'humeur.
Et là, c'est l'ovation. C'est une attaque directe à Bernard Drainville sans le nommer.
Absolument. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est sûr que c'est facile d'avoir des lignes de com qui sont punchées, qui rentrent dans le tas et tout ça. Elle sera peut-être un peu moins flamboyante, mais promet des solutions peut-être plus poussées, plus documentées. Puis je trouve que finalement, le dossier du troisième lien était une démonstration de tout ça.
Avec les deux dernières semaines, j'étais pas là, mais j'ai suivi l'actualité. Puis c'est intéressant aussi de pas avoir toute l'info, mais plus le fume, là, l'environnement, l'aura de tout ça. As-tu l'impression, Antonine, que la CAQ se divise un peu plus que dans une autre course à la chefferie parce qu'il y a plus d'attaques un petit peu? C'est plus aigri, c'est plus spicy, c'est plus...
Ben oui, jusqu'à un certain point, la course de la CAQ, ça brasse parce que... peut-être que les attaques contre les candidats sont pas si virulentes. Elles le sont, mais pas tant que ça. Mais en coulisses, c'est assez tendu entre les équipes. Et c'est une équipe qui travaille au gouvernement en ce moment. Donc, c'est des vrais dossiers avec des vrais cabinets, avec des vrais staffers qui font des vraies choses. Donc, les impacts d'avoir de l'animosité entre les équipes sont plus grands que si tu es dans l'opposition. C'est sûr, c'est plate là, de chicaner dans l'opposition, mais c'est un petit peu moins tannant que quand il faut que tu mènes vraiment des dossiers.
Mais en même temps, j'ai l'impression que ça redonne vie à la CAQ.
Ben, absolument. On les disait morts.
Il y avait besoin de ça.
Exactement. Et on verra évidemment l'issue de cette course-là. Mais moi, je me dis, c'est long finalement. Parce que tu sais, des courses à la chefferie, des fois, ça dure six mois, 9 mois. Celle-là, elle dure quelques semaines. Hey, il reste 7 semaines.
Ouais, je le sais, mais là, Bernard frappe, là. Donnons à César ce qui revient à César. Bernard brasse la soupe pas à peu près. Là.
Ben, il abrase, mais en même temps, je me dis, 7 semaines encore de ça, conjugué avec le pauvre François Legault.
Ah oui.
Qui, honnêtement...
Puis la pauvre CAQ qui essaye de gouverner, puis là, ça avance, recule. On l'a vu sur la Constitution avec Simon Jolin Barrette vendredi.
Ben c'est ça. Donc, moi, encore 7 semaines de ça, je trouve que c'est un peu un calvaire pour la CAQ. Mais en même temps, t'as raison, ça les a sortis d'un marasme dans lequel ils étaient. Puis cette démission de François Legault a ouvert une fenêtre qui n'existait pas avant. On s'en allait vers 0 député. Puis là, ben l'espoir renaît, en quelque sorte, dans les rangs caquistes. Puis parlant de chicane, ça m'a bien fait rire ce matin en voyant que Luc Provençal, député de Beauce-Nord, lui, il trouve que le tracé du troisième lien, c'est pas le bon, celui-là, le tracé central. Mais ce qui est drôle, c'est que Luc Provençal, il appuie Bernard Drainville dans la course et Bernard Drainville appuie le tracé central puis veut aller là, rapidement avec ce projet-là, alors que Christine Fréchette, elle, milite pour un tracé à l'est. Donc, c'est un petit peu particulier comme situation. Et lui, il dit que c'est du monde à Montréal qui a décidé ça, que ça allait être un tracé central. C'est le cabinet du premier ministre, finalement, qui avait tranché, puis c'est une gang de gars de Montréal. Donc, c'est le fun qu'il n'ait pas la langue dans sa poche pour nous, mais je ne sais pas si M. Drainville trouve ça très agréable aujourd'hui.
Ouais, puis c'est là, ça revient au fait que faut en faire un troisième lien. Fait que c'est pas grave, c'est un mauvais projet, on le fait. T'sais, ça, c'est un argument très faible de Bernard Drainville. Il l'a dit sur nos ondes la semaine dernière dans Marceau le matin. Là.
Ouais, mais je suis d'accord aussi à un moment donné qu'il y a tellement eu de niaisage, mais ça ne veut pas dire faisons n'importe quel projet.
Ben, c'est ça, là.
Qui va coûter quand même plusieurs milliards. Puis ça revient à la clip que tu as mis de Christine Fréchette qui dit les solutions simplistes à des enjeux complexes. Mm-hmm. Ben, ça l'illustre assez bien, finalement.
Ben, souviens-toi comment ça a rebondi très positivement, sa prise de position sur la mobilité en général pour la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches la semaine dernière. D'ailleurs, vous pouvez réécouter sur blvd.fm l'entrevue qu'on a fait mardi dernier avec Christine Fréchette. Ici même à l'émission On en jase. On est dans le caucus avec Antonine Iacarini, segment du lundi au jeudi de 12h05 à 12h30 environ. Anto, est-ce qu'on va avoir un 7e député du PQ ce soir? Je crois bien que oui.
Je pense que le PQ va avoir son 7e député. En fait, sa 7e députée, une deuxième femme dans le caucus. C'est quand même particulier là, à quel point le PQ a commencé cette législature en 2022 avec seulement 3 députés. Les projections leur mettaient 2 députés au départ. Paul Saint-Pierre Plamondon avait réussi à gagner sa circonscription par un concours de circonstances exceptionnelles.
Ça. Hein, on se le rappelle, la candidate de Québec solidaire a été prise la main dans le sac par une caméra, a volé dans une boîte aux lettres le tract, autrement dit, le pamphlet de Paul Saint-Pierre Plamondon et mettre le sien et partir en voleuse avec le pamphlet de PSPP. Fait que ça y a enlevé toute crédibilité.
Non seulement ça y a enlevé de la crédibilité, mais elle n'a pas pu se présenter. Le QS l'a retiré et il était trop tard pour présenter un autre candidat. Donc,
la voie était pavée.
Peut-être que PSPP aurait gagné pareil, mais laisse-moi en douter. Donc, déjà, on commence la législature avec 3 députés.
Hey, je pense à ça vite, vite. Là. Je m'excuse de t'interrompre. Mais ça veut dire que sûrement que notre prochain premier ministre a été élu sur un vol de pamphlets en premier lieu.
Vois-tu comment la politique peut nous réserver toutes sortes de
c'est
surprises?
Fou
c'est
dans
dur hein, de faire des prédictions béton dans ces circonstances-là.
C'est complètement fou.
Et le PQ, par la suite, a gagné les circonscriptions dans le cadre d'élections partielles une à une, et ça, pas à cause des vols de pamphlets, mais bien à cause d'un contexte politique bien particulier. Donc, il y a eu l'élection partielle dans Jean Talon à Québec, ensuite, il y a eu l'élection partielle dans Terrebonne, ensuite, on a eu l'élection partielle dans Arthabasca, et là, aujourd'hui, les électeurs de Chicoutimi vont voter pour remplacer André Laforêt, qui était la caquiste qui était en place et qui a démissionné pour s'essayer à la mairie, mais ça n'a pas fonctionné. Et Chicoutimi, c'est la circonscription dans laquelle la CAQ a eu la victoire la plus éclatante en 2022. 62,3% des électeurs avaient voté pour la CAQ.
Hey, c'est pratiquement un score dictateur. C'est ça, soviétique. Voilà, c'est le meilleur terme.
Et là, le PQ en 2022 avait eu seulement 14% du vote. Et là, selon les projections, écoute, moi, je prévois là, que le PQ emporte assez aisément là, entre 45 et 50 du vote selon le site de projection Québec 125. Et c'est la CAQ qui se retrouve à 13%. Donc, on inverse un peu les rôles. Et le challenger du PQ, celui qui... Tu sais, la course à deux se fait beaucoup plus avec le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a présenté une ancienne mairesse de la région, Catherine Morissette, et qui a fait une bonne campagne, là, somme toute, là, avec pas mal d'exposure, une campagne très, très active. Donc, le Parti conservateur, ce serait étonnant qu'il l'emporte, mais quand même, Éric Duhaime va ressortir de cette élection partielle en montrant qu'il est compétitif en région, dans des circonscriptions que le PQ peut reluquer. Puis pour les autres partis, ben le but, c'est quoi? C'est d'essayer de limiter les dégâts le plus possible. On a un nouveau chef au Parti libéral qui ne va pas commencer sur une victoire en partielle. On a la CAQ qui risque d'avoir une chute quand même assez importante. Ils ont présenté un candidat qui n'a pas un CV exceptionnel, qui est un jeune, puis qui est bien ben gentil, puis que tout le monde trouve bien sympathique.
Qui fait de l'humour!
Qui fait de l'humour, d'ailleurs. On en a parlé récemment à l'émission.
Au gang show!
Et QS, à noter que QS envoie des députés ce soir pour soutenir leur candidate.
Ben là, il est temps.
Ils ont appris.
Ben, il a appris de Terrebonne.
Où
leur candidate est rendue qu'à travailler pour Catherine Jean.
C'est
con.
Ben, tellement qu'ils ne l'ont pas soutenu, elle est rendue au PQ. Fait que, ça va bien.
Hey, je te laisse entendre un extrait de Marie-Carline Laflamme, qui est la candidate justement au PQ. C'est lorsqu'elle a été nommée comme candidate. Et je te pose une question par la suite.
Alors,
vous
auriez l'idée que je fais le saut parce que
le Québec est bientôt appelé à devenir un pays. On a un doublon. Ouais. Bref, bizarre, mais c'est pas plus grave que ça. Je te le résume. Dans le fond, elle disait qu'elle a décidé de se lancer en politique avec le PQ parce qu'elle, c'est l'indépendance qui compte. Puis elle va convaincre les Québécois de voter oui.
Ah, y a de la job.
Il y a beaucoup de jobs, puis ça m'amène à penser, parce que là, le PQ, on ne se le cachera pas, là. On parlait de scores soviétiques tantôt pour la CAQ, là. Ils ont gagné partiel avec des scores soviétiques en crime, là. Même quand Duhaime s'est présenté dans Arthabasca, finalement, Alex Boissonneau a ramassé à peu près 47% des votes, là, c'est 46 points quelque chose. Alors, est-ce que ça peut venir en sorte de diminuer un peu le PQ dans Chicoutimi, c'est-à-dire que là, les gens vont lancer... Parce que dans une partielle, on lance toujours un message. Et là, les gens vont lancer le message au PQ... « Hey, slack donc un peu avec l'indépendance. »
Ça devrait pas trop, parce que tu as raison de dire que dans une partielle, les électeurs veulent lancer des messages, mais en même temps, c'est sans risque, parce qu'on n'est pas dans la générale. Donc,
en effet.
Les gens vont aller beaucoup plus vers « on veut voter contre le gouvernement, parce que là, on est dans un moment où on est à la fin, dans une fin de régime, etc. » Il faut dire aussi, Chicoutimi, c'était un terreau extrêmement fertile pour le PQ. Là. C'est dans les circonscriptions, évidemment, là, qui ont été remportées par le PQ.
Est-ce que ça peut changer, donc, comment dire, changer justement cette vision-là qui était plus péquiste?
Ça peut toujours changer. Il y a eu 2 mandats de caquistes de 2018 à maintenant, donc c'est sûr que ça peut changer, mais demeure que c'est un terreau qui est très fertile avec les sondages nationaux du PQ. En ce moment, Chicoutimi, ça fait partie des premiers comtés qu'on est capable d'aller récupérer comme formation politique. Mais c'est sûr que quand on regarde les sondages d'appui à la souveraineté, on ne peut pas s'empêcher de se dire, quand on est à 26 %, on a vu le dernier Angus Reid la semaine passée, à promettre un référendum dans le premier mandat. Mais historiquement, les Québécois ont souvent voté libéral au fédéral et PQ au provincial, ou alors voté massivement pour le Bloc au fédéral, puis voté pour des gouvernements libéraux à Québec. Donc, c'est comme si on est ambivalent un peu, puis qu'on on veut pas trop aller d'un bord ou de l'autre, finalement, pour garder une espèce d'équilibre, peut-être, entre les deux.
Hey, Pierre-Luc pose une super bonne question par texto. Il continue à nous texter au 418-971-101. Il dit, coudonc, il dit, ça serait le fun, par exemple, que le Parti conservateur du Québec, au général, dont Éric Duhaime, rentre à l'Assemblée pour que les partis de gauche arrêtent de faire semblant qu'ils sont de centre-droit. C'est vrai que c'est à la mode, hein, je suis de centre-droit.
Bien, écoute, ça me fait rire, gauche-droite, parce que ça dépend où tu mets le centre. Tu sais, moi, il y a des gens qui me traitent d'extrême droite, puis il y a des gens qui me traitent de woke dans le jeu.
C'est vrai.
Ça dépend c'est qui avec
lequel. J'ai le même problème.
Ben oui, on est pareil.
Ça, c'est parce qu'on est dans l'extrême centre.
Ça doit être ça.
Le centre de 1.
Ça doit être ça, mais
on est rentré dans la gang à Denis Gravel.
Pour répondre à Pierre-Luc, je pense qu'à l'élection générale, c'est presque certain. À moins qu'Éric Duhaime, je ne sais pas ce qui pourrait se passer.
Non, mais c'est certain.
Mais c'est presque certain qu'il va rentrer au moins quelques députés en 2026 pour le Parti conservateur du Québec. Et quand on voit aussi la chute de QS un peu partout, ça change la dynamique dans les circonscriptions. Puis si la CAQ réussit à remonter un petit peu dans les sondages, il y a plusieurs circonscriptions dans lesquelles ça fait des luttes à 3 et même à 4.
Oui, et ça peut avantager le Parti conservateur du Québec.
Dépendamment dans quelle région, oui. Et ça peut aussi, surtout, créer beaucoup d'imprévisibilité. Donc, ça devient... Tu sais, moi, j'aime beaucoup le site Québec 125 de projection, mais des fois, là, quand c'est très... dépendamment de comment les sondages nationaux sont, ça devient impossible de deviner dans une circonscription qui va l'emporter.
D'ailleurs, on vous l'annonce immédiatement, gang, le 2 octobre prochain. On sera en soirée électorale spéciale à Boulevard 102.1. Puis on vous prépare de quoi de le fun où vous allez pouvoir venir nous voir. Donc ça va être plaisant. Une belle idée de notre chère Antonine Iacarini. Hey, avant de parler rapidement de Donald Trump, je te dis, j'ai-tu rêvé où François Blanchette était à Chicoutimi en fin de semaine? L'harmonie est revenue.
Ben, écoute donc,
dans les rangs souverainistes, on gambade maintenant ensemble.
On gambade vers le pays, en fait.
Oui!
Oui, parce que François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était pas l'amour l'année passée. On se rappelle qu'après l'élection au niveau fédéral...
PSPP l'a clenché directement à l'Assemblée nationale.
Et pas parce qu'un journaliste lui a posé la question. Là. Lui, il s'est rendu au Hot Room pour planter François Blanchet puis dire qu'on collaborait beaucoup trop avec Mark Carney du côté du Bloc québécois. Mais qu'à cela ne tienne, François Blanchet a décidé d'aller soutenir la candidate péquiste dans Chicoutimi. Et là, je regardais ça puis je me dis, c'est bien gentil, mais vous avez une élection partielle. Vous autres aussi, qui s'en vient, cher Bloc québécois, et c'est dans Terrebonne. Et là, c'est mélangeant parce qu'on a parlé de Terrebonne tantôt, mais là, on parle bien de Terrebonne, la circonscription fédérale. La Cour a invalidé l'élection parce que c'était trop serré puis qu'il y avait des votes qui n'avaient pas été comptabilisés. On se rappellera de cette folle histoire d'élection très, très serrée. Et là, François Blanchet était dans Chicoutimi, mais moi, je regarde le profil Instagram de la députée sortante, Tatiana Auguste, la députée libérale qui vient de perdre sa circonscription. Elle est très active, elle fait du porte-à-porte, elle distribue des tracts. Et Mark Carney était là la semaine passée et François-Philippe Champagne était là la semaine passée.
Mark a même été dans un petit bar sportif de Terrebonne dimanche pour écouter Team Canada.
Ben oui, il y avait un petit chandail de hockey.
Fait
tout,
que là, tu sais, ça presse. Là.
Ça presse. Donc, mais ce qu'on me dit, c'est que la candidate, donc Nathalie Sinclair, qui avait contesté l'élection, n'a pas encore annoncé qu'elle
ça
se
représenterait plus.
Ben, je ne sais pas ce qu'elle attend, mais c'est parce que là, décidez-vous. Là, parce
ben non,
que...
c'est ça. Parce que là, à moins que ça soit une stratégie des souverainistes, on veut que Mark Carney ait la majorité. Comme ça, notre campagne référendaire va être encore plus frappante.
Oui, ça pourrait être ça, mais je te dirais en fait que dans les couloirs à Ottawa... Les partis d'opposition n'ont pas tant envie d'aller en élection.
Ben non.
Donc, sur le coup, on se disait, si Mark Carney réussit à aller chercher sa majorité à coup de partiel puis de défection, Pierre Poilievre serait dans la chenoute, le Bloc aussi. Pas tant que ça, finalement. Il semble que les gens se disent, bon, mais regarde, au pire, personne n'a envie d'aller en élection pour l'instant, surtout que Mark Carney est assez populaire et il risquerait de toute façon
Carney marche encore sur les eaux. Là,
exact.
On se le cachera pas. Parlant d'hommes qui marchaient sur les eaux, mais qui marchent moins sur les eaux, c'est Donald Trump. Et on l'écoute à la suite du jugement de la Cour suprême vendredi. Une honte, selon lui.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country.
Alors, c'est une honte, il est désappointé, ça va pas à comment le pays veut aller. C'est le grand discours de l'État d'Union demain
oui,
au Congrès. L'année passée, ça avait donné lieu à toutes sortes de spéculations. C'était le pire discours que j'avais entendu de ma vie. On avait ovationné Elon Musk.
Oui.
On disait à quel point l'Amérique allait redevenir grand sous le régime de Donald Trump.
Oui.
Mais dis-moi donc, chère Antonine, après un an, les gens aux États-Unis, là, pas juste nous autres, là, les petites radios à Québec, les anti-Trump, les woke, là, pas juste nous autres, l'Américain moyen qui vit aux États-Unis puis qui mange la claque avec l'inflation, le peu de création d'emplois puis la pauvreté, il n'aime plus non plus Donald Trump.
Ben, c'est très polarisé, puis ça, je pense que c'est important de le dire. Hein. C'est presque plus réconciliable maintenant aux États-Unis, tellement que l'électorat est polarisé, mais il reste encore un petit milieu d'indépendants.
Mm-hmm.
Et c'est eux la clé quand vient le temps
fait
de gagner
ou de perdre.
Il n'y a
pas juste les woke de Québec puis de New York qui ont mis Mme Dany au pouvoir qui sont contre Trump.
Non, écoute ça. Okay, donc, un sondage de YouGov qui dit que 56 % des Américains désapprouvent fortement le président. 50 % le considèrent dangereux.
Aïe, aïe.
47 % le considèrent raciste.
Ouais, ça, il n'y a pas de surprise.
46 % le considèrent cruel.
Hey, c'est fort, ça.
Il y a 70 % des gens qui considèrent qu'il ment, soit souvent ou de temps en temps.
70
c'est ben, quand ça même veut peu. Dire que c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie de sa gang à lui qui sont comme, ouais, ouais, il ment. Des fois,
ben oui,
là,
c'est ça.
C'est pas très bien. Il y a 49 % des gens qui considèrent qu'il est trop vieux pour occuper ce poste-là, lui qui s'approche du 80. Et il y a seulement 21 % des gens qui le trouvent honnête.
Oh, check, ça veut dire que dans sa gang, il y a juste 21 % du monde qui disent « Ah, ben oui, il est honnête. » Rappelez-vous qu'il y a eu tout près de 50 % des votes là, à la dernière élection.
Trop vieux, ça doit même le piquer un peu parce que c'était une des choses qu'il reprochait à Joe Biden.
Absolument.
Et pas à peu près, il l'a mis beaucoup en lumière. Antonine, je te pose une question qui est dure à répondre. Je pense pas qu'il y a de bonnes réponses. Mais tu penses à quel moment où ça a un peu basculé? Tu penses que c'est quel fait... pas nécessairement dans la globalité où Donald Trump l'a échappé pour garder les siens.
Je pense pas qu'on puisse identifier un moment. C'est vraiment l'ensemble de là. Mais c'est sûr que vendredi, ce qui s'est passé, puis ça n'a pas rapport avec ce sondage-là,
ouais.
Mais vendredi, c'est un tipping point. C'est vraiment un point tournant. Puis malheureusement, je pense qu'il va réagir très négativement. Puis tu le disais tantôt en intro, Jean-François, qu'il a dit « OK, ben je vais monter les tarifs. » T'sais, au lieu de dire « OK, je vais peut-être m'ajuster puis essayer, laisser tomber mes tarifs. » Non, je vais monter les tarifs. Donc, plus il va se retrouver dans le coin, plus il va devenir cruel, agressif.
Maraudant, ouais.
Sur la question des tarifs, ce qui est fou, c'est que cette décision-là, puis honnêtement, il y a des bonnes nouvelles là-dedans pour tout le monde, parce que la démocratie américaine continue de fonctionner. On voit qu'il y a des limites au pouvoir présidentiel, et l'argument de la Cour, c'est de dire que tu ne peux pas taxer tes citoyens. Donc, peu importe l'article que tu vas invoquer pour mettre des tarifs, tu peux toujours pas taxer tes citoyens parce que c'est les tarifs, c'est les gens du pays qui imposent les tarifs qui les payent. Ça, tout le monde le sait, même s'ils s'obstinent. Et en terminant, juste dire que c'est quand même ces sondages-là, ça laisse présager que les élections de mi-mandat, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, se passeront pas très bien pour M. Trump et pourraient avoir encore plus de limites s'il perdait le contrôle d'une ou des deux chambres. Généralement, quand les taux de satisfaction sont aussi bas, ça se répercute sur les élections de mi-mandat. C'est en novembre prochain. Il nous reste un petit bout de temps avant de savoir si ça sera le cas. Mais c'est des sondages qui sont quand même très difficiles pour M. Trump.
Très difficiles. Et d'ici là, il y a des grandes compagnies qui vont poursuivre l'administration Trump, notamment Costco, qui a déjà annoncé qu'ils iraient de l'avant. Donc ça aussi, ça va être très intéressant.
Ça va ajouter de la pression sur lui parce que ça va ajouter une impression de chaos. Et c'est quelqu'un qui a fait campagne beaucoup en disant « Moi, je vais remettre de l'ordre dans le pays. Make America great again. »
Après la pause, on va justement parler avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal, sur cette décision de la Cour suprême concernant Donald Trump. Mais avant, on va parler avec notre spécialiste en conflit militaire, Éric Ouellette. Et Pascal, tu nous as aussi préparé quelque chose, des extraits avec un résident québécois qui est au Mexique présentement.
Oui, hier, je lui ai parlé donc en plein chaos. Et aujourd'hui, je lui ai reparlé. Tu vas voir, il y a une différence entre les deux journées, mais quand même, il y en a qui sont mal pris au Mexique en ce moment.
Cool. Alors, c'est ce qui suit à l'émission On en jase sur Boulevard 102. Hein?